des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Mesdames et messieurs, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le président Abdou Diouf, qui est un, on peut le dire, un de nos sages africains, et comme vous le savez, qui a eu comme père spirituel le président Senghor. Alors, je vais juste rappeler pour l'élément de biographie, quelques éléments sur Abdou Diouf. Il est né, c'est important, le 7 septembre 1935 à Louga, au Sénégal, a fait ses études primaires et secondaires à Saint-Louis et débute ensuite des études de droit à la faculté de Dakar et les poursuit à Paris. Alors, rappelons quelques étapes importantes de la vie du président Diouf. Directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor en 1963. Ensuite, il est secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal en 1964. Et il devient président de la République du Sénégal le 1er janvier 1981, à la suite de la démission du président Senghor, une première en Afrique. Et M. Abdou Diouf se souviendra, il cédera ensuite sa place, lui-même, à Abdoulaye Wade, à la tête de l'État sénégalais, lors des élections présidentielles de mars 2000. Donc nous avons affaire à un monsieur qui prend ses responsabilités, à un homme qui est très écouté, qui est un très grand ami de la France. Et Abdou Diouf a contribué à faire entendre la voix du Sénégal dans le monde, et la voix du français dans le monde, bien sûr, et a lutté pour une plus grande unité africaine. Enfin, dernière étape de cette présentation, très rapide, il succède à Boutros-Boutros-Ghali le 20 octobre 2002, et à Beyrouth, il a été élu, d'abord en 2006, et ensuite, renouvellement de son mandat, au sommet de Bucarest en 2010. Alors je dois dire que lorsque j'ai regardé l'ensemble de son curriculum vitae, M. Abdou Diouf a reçu 27 doctorats honoris causa, sans parler même des plus hautes décorations de la République française, pour ne citer qu'elles. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, la bienvenue sur les ondes de Canal Académie, bien sûr la radio internet de l'Académie française. M. Abdou Diouf vient d'écrire un livre qui s'appelle, enfin c'est une réunion de, vous réunissez vos principaux discours qui sont tout à fait passionnants, Passion francophone, le titre est Passion francophone, par M. Abdou Diouf, discours et intervention 2003-2010 aux éditions Brûlant, donc très récent. Cet échange, cet entretien, c'est une sorte de triptyque. Et la première partie, je crois qu'elle ne peut porter que sur l'enfance et son développement, l'enfance africaine. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vous tient terriblement à cœur. C'est inscrit au fond de chacun d'entre nous, au fond de vous-même. Et cette figure qui est impressionnante quand on vous écoute, quand on vous lit, de la grand-mère maternelle, figure des femmes autour de vous, le rôle de la femme. Quels sont les mots chers, qu'ils soient en français ou d'abord en langue wolof, je présume, quels sont les mots que vous aimez prononcer, qui sont vraiment pour vous des mots les plus charnels?
Je voudrais d'abord, après vous avoir remercié à nouveau, dire que c'était la grand-mère paternelle. Je trouve que la grand-mère maternelle.
Oui, paternelle, c'est
la grand-mère
pour moi.
Paternelle. Et c'est elle qui m'a pratiquement servi de mère. La première fois que je me suis évanoui, c'est quand elle est morte. C'est, pour moi, c'était une douleur insoutenable. Les mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à elle, c'est affection, vénération, et aussi charité, générosité, solidarité, espérance. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot qui est dans ma tradition wolof, traduit yakar, mais c'est un mot aussi qui est, comme vous le savez, dans les vertus théologales. Puisque les vertus théologales, telles qu'énoncées dans la Bible, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ces mots-là.
Cette rencontre avec Léopold Sédar Senghor a dû être fabuleuse pour vous.
Oui, une rencontre en plusieurs temps. La rencontre d'abord du jeune homme qui, dans les rues de Saint-Louis, applaudissait à tout rompre le député Senghor, le premier agrégé de grammaire d'Afrique, que nous regardions comme une sorte de prince de l'intelligence, de la culture, des lettres, de la politique aussi. Quelqu'un avec qui je correspondais, si je peux m'exprimer ainsi, parce que je tenais la plume de ma tante, qui était la nièce de ma grand-mère, la cousine germaine de mon père, qui était la présidente des comités des femmes de Senghor, des femmes senghoristes à Saint-Louis du Sénégal. Et quand elle écrivait à Senghor, elle était analphabète, c'est moi qui écrivais. Quand Senghor répondait, c'est moi qui lui traduisais. Quand il y avait à lire les journaux politiques, parce qu'elles étaient très passionnées par la politique, mais surtout par Senghor, c'était encore moi qui lisais à ma tante paternelle et à toutes ces femmes qui étaient avec elle. Et alors, j'ai fait à Saint-Louis du Sénégal, auprès de ma grand-mère et de cette tante, à la fois mes études coraniques, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Mes études coraniques, mes études primaires et mes études secondaires à Saint-Louis du Sénégal. Et j'ai toujours été fasciné par le fait que dans le Coran, toutes les sourates, à l'exception d'une, pour des raisons qu'on a expliquées d'une façon ou d'une autre, en tout cas, pratiquement toutes les sourates commencent par « Au nom d'Allah, le miséricordieux, le clément et le miséricordieux ». Alors, quand je vois des gens qui utilisent le Coran avec de la violence, avec de l'intolérance, je ne peux que m'étonner parce que ce n'est pas le Coran que j'ai lu. Ce n'est pas le Coran où je trouve la miséricorde, où je trouve le pardon, où je trouve la charité, où je trouve la solidarité, le partage.
On ressent, lorsqu'on vous lit, et lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous entend, cette importance du spirituel dans votre univers personnel. Et ça, c'est quand même, vous d'ailleurs, vous déclarez dans un article, « Je n'agis pas sans avoir prié ». Et ça, c'est quand même très impressionnant. Et vous parliez à l'instant du Coran, l'arabe classique, bien sûr. Et en même temps, c'est votre femme est catholique, vous êtes entouré de gens de différentes religions. Et cet amour pour ce qui nous rapproche d'ailleurs, pour Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un personnage magnifique. Et je dois vous dire que vous m'avez doublement impressionné quand vous déclarez que vous aimez lire la Bible. Or, j'ai une mère Thérèse qui m'a offert sa propre Bible en mourant, et j'ai cette Bible chez moi, etc. Je vous la montrerai un jour, bien sûr. Donc, je suis très impressionné par ces racines religieuses qui portent votre vie, qui soutiennent votre vie. Et ça, je trouve ça très beau.
Oui, j'ai parlé de Sainte Thérèse parce que je vous ai dit que j'ai été élevé à Saint-Louis, mais comme vous l'avez rappelé au début de cette émission, je suis né à Louga. Et à Louga, l'église de Louga porte le nom de Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'était presque une sorte de prédestination, parce que par la suite, j'ai beaucoup aimé le personnage de Sainte Thérèse. Et la Bible, je la lis parce que depuis que je me suis marié avec mon épouse, depuis 1963, tous les jours, ma femme me lit la Bible au lit. Alors, nourri de la Bible par les lectures de ma femme, nourri du Coran par l'enseignement que j'ai reçu de mes parents et de mes maîtres musulmans, tenant compte du fait que l'Ancien Testament est en quelque sorte la mère des deux livres saints que sont l'Évangile et le Coran, et ayant même une belle-fille juive dans ma famille, je dis toujours que je suis la maison d'Abraham. Et étant ouvert à toutes les autres philosophies, toutes les autres formes de pensée, du moment que le chemin, c'est le spirituel.
Et puis vous citez cette très belle phrase du père Teilhard de Chardin, « Tout ce qui monte converge ». Et ça, c'est une phrase magnifique. Est-ce que parfois, cher président, est-ce qu'il vous arrive de vous représenter le paradis ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est permis? Parce que comme moi, je ne suis pas très au courant des choses du Coran, si vous voulez, même si... Est-ce que vous pouvez vous permettre de penser au paradis, de vous représenter le paradis ou pas?
Non, je ne me représente pas le paradis. Je lis ce qui est dit dans les livres saints sur ce que peut être le paradis. Voir la face de Dieu, ou d'autres images. Mais tout cela, c'est des images pour nous permettre de savoir que nous serons au paradis dans un lieu extraordinaire et pour l'éternité. Non, moi j'applique un peu la phrase de Rilke, Rainer Maria Rilke, qui disait « Sur la terre des hommes, faire son métier d'homme et laisser le reste à Dieu. Le reste, c'est le mystère. Je fais du mieux que je peux et je me dis que après ma mort physique, il y aura quelque chose et le reste appartient à Dieu. »
J'ai comme l'impression que l'un de vos secrets, c'est votre extrême simplicité. Est-ce que je me trompe ou ça vous choque ce que je dis ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Simplicité, modestie, humilité, réserve, comme vous voulez,
mais c'est beau.
Je ne suis pas compliqué, ça c'est sûr.
Et vous aimez, je crois me souvenir, que vous êtes un admirateur de Blaise Pascal.
Oui, de Blaise Pascal, de Descartes, de Montesquieu.
Et pas Voltaire ?
Si, de Voltaire aussi, mais Montesquieu parce que je suis un homme politique. Et dans ma vie politique, je me suis toujours inspiré de l'esprit des lois. Quand Montesquieu nous dit le principe de la démocratie, le principe de la République, c'est la vertu. Entendu au sens de l'intérêt général, pas vertu avec un grand V, mais entendu au sens de l'intérêt général, j'adhère totalement à cela. Et dans ma vie, je me suis toujours évertué à considérer que j'étais élu par le peuple pour le servir, pour servir cet intérêt général. Non seulement l'intérêt général de mon pays, mais l'intérêt général de l'humanité. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, un chef d'État, il dirige son pays, c'est vrai, mais il participe également à la vie de la communauté internationale. Et il faut qu'il fasse ça toujours avec intégrité, ouverture d'esprit. Je crois que c'est le même Montesquieu qui disait quelque chose. Si je voyais quelque chose de bien pour moi et qui soit mauvais pour mon pays, je le rejetterais. Si je voyais quelque chose qui soit bon pour mon pays et qui soit mauvais pour l'Europe, je le rejetterais. Si je voyais quelque chose qui soit bon pour l'Europe et qui soit mauvais pour l'humanité, je le rejetterais. Donc, il faut être cohérent. Il faut avoir une cohérence entre le local, le national et l'universel. Et c'est comme ça que je définis, moi, l'intérêt général et la vertu au sens de Montesquieu.
C'est magnifique. Est-ce que les Français n'oublient pas un petit peu trop, justement, Montesquieu au profit de Voltaire ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, chaque fois que je parle avec eux, je parle beaucoup plus de Montesquieu que de Voltaire. Il faut dire aussi que Voltaire a écrit de très belles choses sur la tolérance.
C'est vrai.
Il a écrit de très belles choses sur la tolérance, ça, il faut le dire. Mais dans mon panthéon personnel, je mets Montesquieu avant, pour les raisons que je vous ai indiquées. Peut-être que quelqu'un d'autre qui a un autre parcours mettra Voltaire avant, ou Jean-Jacques Rousseau. Mais moi, je mets Montesquieu avant parce que je suis un homme d'État, un homme politique, et que j'avais besoin de m'abreuver à cette source-là. Après l'exemple que Léopold Sédar Senghor m'a si éloquemment donné, j'avais besoin de m'abreuver à cette source pour que chaque fois que je devais prendre une décision difficile, que je puisse dire attention. Cette décision que tu prends, veille à ce que ce soit toujours l'intérêt général entendu au sens le plus large qui soit ta boussole.
Quelles sont les quelques lectures que Léopold Sédar Senghor vous a offertes, disons ?
S'il n'était pas homme à vous dire « lisez tel ouvrage », non, c'était pas son genre. Je lisais sa poésie, je lisais ses œuvres, mais quand je l'entendais parler d'un grand écrivain, je me précipitais pour lire. Mais c'était pas un homme directif de ce côté-là. Il m'avait mis là pour une tâche administrative, et il voulait que j'accomplisse cette tâche administrative. Mais il était soucieux aussi d'avoir des collaborateurs cultivés. Je me souviens qu'une fois, il devait nous noter, parce que nous étions quand même dans des corps administratifs, nous devions être notés. Et moi, j'étais son collaborateur. Et il y avait deux de ses ministres aussi qui étaient dans administrateurs civils comme moi. J'ai vu comment il a noté chacun. Et en me notant, moi, ça me revient maintenant à l'esprit, il a mis des choses très élogieuses, mais il a ajouté « et cultivé ». Il a ajouté « et cultivé ». Je ne pense pas qu'il le dise pour tout le monde. Mais ça m'a frappé. J'ai dit « tiens, comment peut-il dire, lui, qui est la culture même, comment peut-il dire de moi que je suis cultivé ?» Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a senti en moi.
Quel est votre souvenir le plus fort comme président de la République du Sénégal?
Ah, j'en ai beaucoup.
J'imagine.
J'en ai beaucoup de souvenirs très forts.
Mais un parmi d'autres.
Mais le jour où j'ai prêté serment et où j'ai quitté le palais de justice pour venir au palais de la République où Senghor m'attendait, c'était la première fois que nous nous donnions l'accolade. Avant, c'était entre le maître et le disciple, le père et le fils, entre le chef d'État et son premier ministre ou son secrétaire général, selon les fonctions que j'occupais. J'étais dans une attitude de très grande réserve, de soumission. Mais quand je suis arrivé, après avoir passé les troupes en revue dans la cour de la présidence, spontanément, il m'a fait l'accolade. Et ça, c'était formidable. Et ensuite, il a salué mon père, il a salué ma mère. Et il a eu cette phrase admirable. « Ah, je regrette que Toutane ne soit pas là pour voir ça. » Toutane, c'était ma tante qui était la présidente de ces comités. Et ça, c'est une chose extraordinaire.
Qui vous reste...
c'est un des souvenirs. Alors, sur le plan international, le souvenir le plus fort que j'ai, c'est quand j'étais en train de lutter pour l'éradication de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour moi, c'était un chancre dans le continent africain, que je ne pouvais pas supporter. Je me suis beaucoup battu contre l'apartheid et pour la libération de Nelson Mandela aussi. C'était la même cause. Et avec mon avion, j'ai survolé les pays de la ligne de front, et j'ai survolé l'Afrique du Sud de l'apartheid. Alors que je passais tout mon temps à faire des discours contre l'Afrique du Sud de l'apartheid. C'était un moment... J'étais serein, mais ceux qui étaient avec moi dans l'avion n'étaient pas sereins. Chacun se demandait qu'est-ce qui pouvait arriver. Nous étions considérés comme l'ennemi par les tenants de ce pouvoir séparatiste, raciste. Et alors, ça s'est bien passé. Mais c'est un souvenir jusqu'à présent, je l'ai là.
Mais c'est un souvenir très fort. Je comprends mieux pourquoi le président Diouf est devenu le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux. Vous avez su offrir Montesquieu, si j'ose dire, au Sénégal. Et là, vous essayez de nous offrir le meilleur de Montesquieu à l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est beau ce que vous faites là. Parce que il faut réunir, il faut que les lois soient claires, qu'il y ait de la vertu, etc. C'est parce que c'est pas une mince affaire que présider l'Organisation internationale de la francophonie. Comment cela progresse-t-il? Où en sommes-nous aujourd'hui?
Il faut parler de la francophonie en général. D'abord, je rectifie un peu parce que mon titre exact, c'est secrétaire général de la francophonie. Je dirige l'Organisation internationale de la francophonie, mais en même temps, je supervise tous les opérateurs de la francophonie, les opérateurs spécialisés. L'Agence universitaire de la francophonie qui a ses propres organes, mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence, une synergie de l'ensemble francophone. L'Association internationale des maires francophones, TV5, qui est la chaîne multilatérale francophone, la vitrine de la francophonie sur le plan télévisuel, l'Université Senghor d'Alexandrie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui est notre conseil spécial. Donc, il y a une synergie à créer. Et c'est pourquoi, je crois, les chefs d'État, dans leur sagesse, ont dit il doit s'appeler secrétaire général de la francophonie. Mais en même temps, ils ont dit il dirige l'OIF, mais en même temps, il préside un conseil de coopération pour assurer la cohérence d'ensemble de l'action francophone OIF et opérateur de la francophonie. Francophonie progresse. Nous sommes actuellement à 75 États et gouvernements. 75 États et gouvernements, membres à part entière, membres associés, membres observateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à Haïti, mais je suis allé aussi en République dominicaine, la République dominicaine vient d'être admise comme membre observateur. Et j'ai trouvé un pays très engagé dans la coopération francophone. L'Organisation internationale de la francophonie a ce nombre de membres, mais au niveau de l'Agence universitaire de la francophonie, vous avez des universités qui sont dans les États membres de l'OIF, mais qui sont également dans le monde entier. Même dans des États qui ne sont pas membres de l'OIF, est-ce que vous savez que à l'Agence universitaire de la francophonie, vous avez le plus grand nombre d'universités membres sont des universités françaises. Et après, le deuxième pays qui envoie le plus d'universités, c'est l'Algérie.
C'est l'Algérie.
Qui n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
C'est l'Algérie.
Israël n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie, mais envoie deux ou trois universités à l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, sur le plan de l'enseignement supérieur, de la recherche, nous dépassons même l'ère de l'OIF à ce niveau-là. Alors, il y a toujours une autre logique dans les différents opérateurs. Pour vous donner une idée du progrès de la francophonie, vous avez, en termes de locuteurs, en 2007, nous avions estimé à 200 millions le nombre de locuteurs francophones. Dans le rapport de 2006 qui a précédé le sommet de Montreux, nous avons dénombré 220 millions.
Forte augmentation.
Et nous avons 116 millions d'apprenants de français dans le monde. Mais nous aurions pu en avoir plus, parce que de partout on nous demande du français, on nous demande de la langue française. Mais il faut avoir aussi les moyens de répondre. Les lycées français, les alliances françaises, les instituts français, culturels, la fédération des professeurs de français. Tout le monde fait des efforts inouïs, mais il faut davantage de moyens pour qu'on puisse aller
plus loin.
Mais alors,
président, il y a justement un peu cette question. Nous entendons, quand nous sommes, comme moi, un militant, si vous voulez, de cette cause du français de la francophonie, nous entendons sans arrêt les gens, ici et là, se plaindre de manquer de moyens. Comment se fait-il que notre propre gouvernement, je parle du gouvernement français, ne fasse pas davantage, pas en somme astronomique, bien entendu, les temps sont durs, mais ne fasse pas davantage, car il y a, et vous le savez très bien, un très grand désir de français dans le monde et de dialogue des cultures. Comment se fait-il que certains, quand même, certains de nos politiques, je ne nommerai personne ici, mais certains de nos politiques n'écoutent pas beaucoup ce qu'on leur dit, franchement, n'entendent pas toujours. Et ça, c'est choquant, quand même. C'est choquant pour nous, Français, pour nous, francophones, pour les francophiles, pour tous nos amis africains. C'est choquant, ça, quand même. Ça vous choque pas ? Je m'excuse d'être un peu...
Non. Je vais simplement vous répondre par les faits. La France est de loin le plus grand contributeur.
C'est vrai.
Au niveau de la francophonie. Mais bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais les difficultés budgétaires sont ce qu'elles sont. Et la situation actuelle n'améliore pas les choses. Mais il faut reconnaître quand même que le gouvernement français a fait un effort colossal. Vous étiez l'autre jour dans nos murs.
Bien sûr.
Vous avez vu le beau siège que nous devons à la République française.
Qui nous honore tous.
Oui. C'est une idée qui avait été lancée par le président Jacques Chirac. Et après bien des péripéties, le président Nicolas Sarkozy l'a réalisé. Quand vous entendez parler de la francophonie par le président Nicolas Sarkozy, quand il pose des gestes comme ça, quand vous entendez Jean-Pierre Raffarin, qui est son représentant personnel au Conseil permanent de la francophonie, quand vous entendez, comme hier, nous avons entendu Alain Juppé ouvrir les états généraux de la langue française en des termes extraordinaires et mener une action décisive pour faire reconnaître la francophonie, vous ne désespérez pas. Cela dit, c'est ailleurs, je me plains d'autre chose. Je me plains du fait que les élites intellectuelles françaises n'ont pas conscience de l'importance de ce combat pour demain.
C'est vrai.
Ils ont l'impression qu'après tout, qu'est-ce que c'est qu'une langue ? C'est simplement un moyen de communication comme un autre. Pourquoi tout le monde ne peut pas parler anglais ? Après tout, c'est la lingua franca. Ils oublient simplement la richesse de la diversité culturelle, la richesse de la diversité linguistique. Ils acceptent de se laisser formater. Ils acceptent d'aller vers un monde monolingue, un monde de la pensée unique, qui serait désastreux pour l'humanité. C'est ça qui est gênant. Et je disais hier que ce qui me frappe, c'est que les Espagnols sont fiers de parler leur langue dans les organisations internationales. Les Arabes sont fiers de parler leur langue dans les organisations internationales. Il faut que les élites françaises aussi soient fiers d'exprimer leur pensée en français. D'abord, c'est plus digne. Et puis c'est plus efficace, parce que vous savez, quand on parle dans une langue qui n'est pas la vôtre, vous maîtrisez moins bien votre pensée.
C'est moins évident.
Hier, je citais dans mon discours à l'ouverture des états généraux une formule de Churchill, de Winston Churchill, vous savez, avec son humour, qui disait « l'anglais est la langue du monde qu'on peut le plus mal parler ». Je vous dis, on a l'impression que certains préfèrent exprimer leurs pensées dans une langue qu'ils maîtrisent mal, au risque de ne pas être bien compris, au risque de ne pas donner toutes les nuances de leurs pensées, plutôt que de l'exprimer dans leurs pensées, et de laisser les interprètes, les traducteurs professionnels, quand il y a dans une grande conférence internationale, il y a toujours la traduction simultanée, les traducteurs font leur travail. C'est ça qui me navre. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus.
Oui,
j'espère, ça, j'espère.
Oui, je pense que vous avez raison. Mais c'est vrai que trop d'intellectuels français ne sont pas assez motivés et surtout conscients des enjeux, car les enjeux sont quand même très importants. Alors, il est sûr que j'ai retenu de vous cette formule, qui est une belle formule. Je suis un pessimiste de la raison, mais un optimiste de la volonté et de la foi. Et c'est vrai que votre vous sent merveilleusement volontaire dans votre action, dans vos stratégies, etc. etc.
Oui, effectivement, quand on voit le laxisme ambiant, quand on voit les problèmes, les nombreux défis qu'il y a dans le monde, quand on voit la montée des égoïsmes et de toutes ces démarches guidées par des ambitions personnelles, beaucoup plus que par une ambition collective, on se dit, mais ça ne marchera jamais. C'est pas possible. Nous sommes dans un monde impossible. Mais si vous vous dites, les choses sont comme ça, mais on peut les changer. Et on peut le changer avec de la volonté. On peut les changer par un plaidoyer incessant, par une action incessante dans le sens positif. On peut contrer les vents contraires. Et surtout, si on est armé d'une foi ardente. Je parle quelquefois à des croyants, je parle quelquefois à des non-croyants. Je dis la foi tout court. Pour moi, c'est la foi en Dieu et en l'homme. Pour d'autres, c'est la foi en l'homme seulement parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Je dis, peu importe. L'essentiel, c'est que nous ayons cet optimisme de la volonté et de la foi qui peut nous porter...
Soulever les montagnes.
À soulever les montagnes, voilà.
Est-il possible de trouver des règles vraiment applicables pour redistribuer les richesses créées par la mondialisation ?
Oui, je pense que dans chaque pays, il y a beaucoup de règles, beaucoup de structures concrètes pour cela. Depuis les structures caritatives, jusqu'aux structures de justice distributive. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie économique ou sociale là-dessus. Non, mais le maître mot dans ce monde qui est de plus en plus régi par la finance, par la spéculation, par le profit, c'est de dire que l'économie, la finance sont au service de l'homme. Comme dirait Senghor, tout l'homme est de tous les hommes. Mais ce n'est pas le contraire. Sinon, on renverse les valeurs. On est dans les contre-valeurs. Les valeurs n'ont de sens que par rapport à leur finalité humaine. Et c'est pourquoi il faut une régulation. Il faut une régulation, il ne faut pas avoir peur des mots. Si on ne régule pas la finance, l'économie, les marchés, la nature avec les problèmes du réchauffement climatique, si on ne régule pas, on n'avance pas. On ne peut pas dire que les forces aveugles du marché peuvent résoudre les problèmes du monde entier et de façon juste.
Quand je vous écoute cette belle voix chaude, chaleureuse, venue de ce continent qui est probablement le berceau de l'humanité, je me souviens de Ce que je crois de Senghor, un livre magnifique entre beaucoup, et je pense à ce titre d'un livre qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais étudiant, La puissance et la sagesse. Et je me demande si je n'ai pas devant moi cette puissance et cette sagesse.
Je ne sais pas si je suis un sage, je ne sais pas.
Je
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis toujours efforcé d'être un bon disciple. Un disciple de Léopold Sédar Senghor. Vous savez, j'ai toujours été frappé par un grand écrivain, un sage, qui s'appelait Amadou Ampateba, malien. Dans tout ce qu'il écrivait, il disait toujours, il écrivait de très belles choses, hein. C'est lui qui a dit, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Il a dit beaucoup de belles choses. Mais il disait, tout, chaque fois qu'il écrivait quelque chose, il disait, mon maître, le sage Tierno Bokar, avait l'habitude de dire. Moi aussi, je dis, mon maître Senghor m'a nourri en son sein, sein de la sagesse, de la tolérance, de la vertu. Et je m'efforce, imparfaitement certainement, parce que je suis un être humain, je m'efforce d'être fidèle à son enseignement. Donc je n'ai aucun mérite particulier.
Monsieur le Président Abdou Diouf, votre présence nous comble et votre rayonnement continuera très longtemps encore, j'en suis sûr. Merci beaucoup.